Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'heure de la justice a sonné.
Cependant, il faut que vous sachiez que tout ce que vous allez dire pourra être utilisé ultérieurement contre vous.
J'ai rien à dire.
Donc quand j'ai eu l'information de ces perquisitions, je me suis rendu tout de suite au commissariat qui gérait ce dossier. Donc l'arrivée était un petit peu irréaliste. Puisque je rentre dans le commissariat, bonjour, j'ai entendu dire que on me recherchait, donc je suis là. Quelle est la prochaine étape? Bah la prochaine étape, c'est la garde à vue. Suite à ça, on a eu un premier jugement. On a eu le choix de faire appel et on l'a pris. Donc c'est encore énormément de travail, énormément d'investissement pour pouvoir se défendre, puisqu'à chaque fois il faut payer des avocats, ça coûte très cher. On a eu la chance d'avoir les moyens de le faire. Et tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc nous, on l'a eu, on l'a fait.
Et 6 ans après cette première garde à vue, notre héros du jour a finalement obtenu gain de cause le 19 novembre 2020 devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il s'appelle Antonin Cohen et il n'est pas un trafiquant de drogue internationale, mais le cofondateur de Canavap, la toute première cigarette électronique au CBD, lancé en France en 2014.
Après 6 ans d'action judiciaire donc, le verdict européen est tombé. L'interdiction de la vente du CBD en France est illégale. Et si la justice avait un rôle à jouer, un rôle majeur dans l'évolution de la législation sur le cannabis, on s'intéresse aujourd'hui à ces héros de la weed qui ont porté leur combat devant les juges.
Héros des tribunaux, que justice soit faite, c'est l'épisode 17 de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
Bonjour et bienvenue dans Banana Kush. Dans le dernier épisode, on vous emmène en prison et cette fois-ci, on vous traîne devant les tribunaux.
Mais attention, non pas parce que vous vous êtes fait choper avec une boulette de shit dans la poche, non, on vous emmène devant les tribunaux pour contester la légalité de l'interdiction de consommer du cannabis.
La légalité de l'interdiction de consommer... Ok, c'est compliqué, mais je vois.
Eh ben ouais, car souvent dans l'histoire, la lutte contre la prohibition a été portée par des femmes et des hommes qui sont allés plaider leur cause devant le juge. Et bien souvent, le juge leur a donné raison.
Au titre du droit à l'accès aux soins ou au nom des libertés individuelles, les tribunaux n'ont pas hésité à remettre en cause les lois prohibitionnistes ou à les déclarer anticonstitutionnelles. Alors aujourd'hui, focus sur ces héros qui, dans le monde, ont porté le combat à la barre, dans le box des accusés ou en poursuivant l'État.
Dimanche 16 août 1964, San Francisco s'apprête à recevoir la visite des Beatles. La ville n'a d'yeux et d'oreilles que pour les 4 garçons dans le vent quand soudain, un jeune homme de 28 ans fait irruption dans le hall du palais de justice, sort de sa poche un joint de Marie-Jeanne et l'allume avant de s'écrier aux policiers qui l'observent, éberlués. « Je débute une campagne pour légaliser le cannabis. J'aimerais être arrêté. » Lowell Eggmeyer passera 1 an en prison et restera dans l'histoire comme le tout premier activiste du cannabis aux États-Unis.
Et que justice soit faite. Si on s'intéresse aujourd'hui aux héros des tribunaux, c'est parce que l'actualité vient de nous en offrir 2 beaux spécimens et ils sont français.
En 2014, Antonin Cohen et Sébastien Baigri lancent la première cigarette électronique au CBD en France. Mais avant même sa commercialisation, Marisol Touraine, la ministre de la Santé de l'époque, demande l'interdiction du produit. S'en suivent des années de batailles judiciaires que nous raconte Antonin.
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
C'est notre petit secret.
Banana split for my baby. A glass of plain water for me.
L'histoire de Canavap remonte quelques années en arrière. Et c'est vrai qu'on a lancé ce produit plus par activisme que par intérêt économique, puisqu'en 2014, le CBD était absolument inconnu. Le marché n'existait pas, il n'y avait pas de demande. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, le CBD, le cannabis, parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis un petit peu mon enfance, comme j'ai grandi à Marseille.
Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit.
Tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit.
C'est une ville où il y a beaucoup de gens qui consomment du cannabis. Donc j'ai eu cet intérêt d'abord personnel et puis ensuite cet intérêt sur cet usage récréatif. C'est beaucoup étendu quand j'ai rencontré une personne qui faisait de la recherche scientifique sur le cannabis. Et donc, on a décidé de créer à ce moment-là, c'était en 2008, la première association en France sur la recherche sur le cannabis. Donc, ça, notre but à l'époque, c'était de pouvoir éduquer sur ces nouveaux usages, sur les usages innovants du cannabis, de pouvoir casser un petit peu les clichés et de créer une information en français de qualité pour faire un petit peu évoluer les consciences. Au fil des années, on a reçu énormément de membres, de questions, d'appels à l'aide aussi. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour aider ces gens. C'est bien d'éduquer, mais au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir leur fournir des produits. Et j'ai réalisé qu'en fait, le CBD, c'était aussi une molécule hyper intéressante parce qu'il n'y avait pas d'effet psychotropique. Et également, le CBD, c'était hyper intéressant pour moi puisqu'on pouvait l'extraire de la plante de chanvre. Et la plante de chanvre, on les cultive en France depuis littéralement des milliers d'années. Et d'ailleurs, je viens de Marseille. À Marseille, une des rues principales, c'est la rue de la Canebière. Et Canebière veut dire champ de chanvre en provençal.
Mets ta mère sur la Canebière, mets tes morts sur le vieux port.
Donc avec mon associé à l'époque, on a un petit peu tout fait nous-mêmes. On a planté un champ de chanvre à côté de Marseille. On a fait la récolte nous-mêmes à la main avec une dizaine d'amis. Et puis on a fait de l'extraction à la maison pour pouvoir tester les différentes techniques, voir qu'est-ce qui nous permettait d'extraire le plus efficacement le CBD. Et ensuite, on a créé les premiers prototypes de produits, notamment de l'huile au CBD, de la crème au CBD et donc de l'illiquide au CBD. On l'a ensuite donné ou vendu à des gens autour de nous et les retours étaient vraiment fantastiques. Les gens vraiment aimaient ces produits-là. Donc on s'est dit, voilà, il y a une vraie utilité.
Il faut toujours donner sa chance au produit.
Donc à ce moment-là, on s'est dit, quel type de produit lancer ? On avait le choix entre de l'huile, du cosmétique ou de la vape. Et j'ai décidé de me concentrer sur la vape, d'où le produit Canavap.
You'll get higher than you do with fire when you vape, oh, vape, oh, vape. See me vaping now. Vape, oh, vape, oh, vape, oh. Vape, oh, vape, oh, vape. Vape, oh, vape, oh, vape, oh.
On a fait ce premier produit Canavap en République tchèque. Donc on a trouvé un partenaire à Prague qui avait un très beau laboratoire d'extraction, qui faisait déjà aussi des expérimentations d'extraction de CBD. Donc on a été son premier client avec qui on a collaboré pour faire de l'extraction de CBD à un niveau industriel et pouvoir faire une vraie production. Et ensuite, on a donc préparé le lancement en France à travers une communication qu'on a voulu la plus large possible. Puisqu'à l'époque, encore une fois, le CBD, personne ne le connaissait. Moi, je trouvais que c'était un composant formidable. J'avais envie que le plus de gens possible en entendent parler. Donc, on a décidé d'organiser une conférence de presse à Paris en décembre 2014 pour annoncer notre lancement. On a loué un petit théâtre d'une cinquantaine de places. On a fait un communiqué de presse et à notre grande surprise, le théâtre était rempli de journalistes. On avait quasiment toute la presse écrite, TV, radio qui était là. Donc ça a créé un gros buzz médiatique qui s'est transformé un petit peu en polémique puisque la ministre de la Santé de l'époque a été interrogée le jour de notre pré-lancement sur ce produit. Elle a déclaré qu'elle souhaitait interdire ce produit.
Cela constitue une incitation à consommer du cannabis et on voit bien qu'il y a là un problème de santé publique.
Oui, maman.
On a souhaité travailler de manière la plus sereine possible avec les autorités compétentes. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a décidé de suspendre la commercialisation de Canavap en attendant d'avoir la réponse des autorités. Donc on leur a fourni un dossier technique très très complet qui a été envoyé à l'ANSM, qui est l'organisation qui gère la sécurité des médicaments, en janvier 2015. Et on attendait impatiemment leur réponse quand, en février 2015, on a eu la surprise d'avoir une réponse judiciaire à travers des perquisitions de logements de tous mes associés par les gendarmes.
La République, c'est moi !
Donc les perquisitions, c'est des moments assez, assez violents, puisqu'on a une dizaine de gendarmes qui se présentent à 6h du matin chez soi. Personnellement, j'ai eu la chance d'être à ce moment-là en déplacement professionnel à Paris. Donc quand j'ai eu l'information de ces perquisitions, je me suis rendu tout de suite au commissariat qui gérait ce dossier. Donc l'arrivée était un petit peu irréaliste, puisque je rentre dans le commissariat. Bonjour, j'ai entendu dire qu'on me recherchait, donc je suis là. Quelle est la prochaine étape ? Bah, la prochaine étape, c'est la garde à vue.
Que vont-ils faire de moi, sergent ? Pas la chaise électrique, non !
Suite à ça, on a attendu patiemment avant de lancer les ventes en France. L'enquête a continué. On a été réinterrogé plusieurs fois. Et au bout de 3 ans de procédure, on a eu un premier jugement qui s'est passé donc en 2017. Donc on y est allé plutôt confiant, puisque c'est vrai qu'on avait bien préparé notre dossier. On avait déjà une analyse juridique et notre interprétation juridique et on pensait vraiment que le produit était légal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a lancé. Mais ça n'a pas été suffisant pour le premier juge qui nous a condamnés à 15 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende. Donc en sortant du tribunal, c'était vraiment la douche froide, sachant qu'on a été transparent et que vraiment, nous, notre intérêt, c'est pas juste de faire une boîte qui marche, mais vraiment un produit utile pour la vie des gens. Et ces arguments-là n'ont pas forcément été entendus.
Alors pour toi, il est coupable ou il est pas coupable ?
Quand j'ai le dossier, oui, et puis quand je suis devant lui, bah, je suis moins sûr, voilà.
Suite à cette première condamnation, on a eu le choix de faire appel et on l'a pris. Donc c'est encore énormément de travail, énormément d'investissement pour pouvoir se défendre, puisqu'à chaque fois, il faut payer des avocats. Ça coûte très cher. On a eu la chance d'avoir les moyens de le faire et tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc nous, on l'a eu, on l'a fait. Et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le juge, sur une question assez technique qui est la classification comme narcotique du CBD en fonction de l'origine du CBD, de la partie de la plante utilisée, ce juge français a écouté nos arguments. Il y a un pilier de l'Union européenne qui est la libre circulation des marchandises. Et donc, comme notre produit était légalement fabriqué en République tchèque, ce produit devrait être librement distribuable en France aussi.
Il ne faut pas laisser n'importe qui se foutre de la loi, sinon tout va de travers.
Donc le juge français a écouté nos propos et a décidé de saisir la Cour européenne de justice, donc ça c'est en 2018, pour un avis. Et donc au total, 6 ans après avoir lancé le produit Canavap, on a eu enfin la réponse de la Cour européenne de justice en novembre 2020, donc il y a un petit peu moins d'un mois. Et la Cour de justice de l'Union européenne s'est rangée de notre côté et donc contre les autorités françaises. Et ils ont eu une réponse très claire et précise sur le fait que le CBD ne pouvait pas être considéré comme un narcotique et donc ne devait pas être restreint au niveau de la libre circulation des marchandises, car ça ne pose pas, a priori, de problème de santé publique. Et d'ailleurs, c'est une information que l'Organisation mondiale de la santé avait aussi déclarée dans un rapport il y a environ 2 ans.
Les médiocres se résignent à la réussite des êtres d'exception, mais la réussite d'un des leurs, ça les exaspère. Elle les frappe comme une injustice.
Donc suite à cette victoire, on attend maintenant une évolution réglementaire rapide en France qui va, on l'espère, enfin permettre à l'industrie française de participer à ce fort engouement pour le CBD, que ce soit les agriculteurs de chanvre, les laboratoires d'extraction ou les entrepreneurs qui souhaitent faire des produits au CBD. On a un vrai savoir-faire sur tous ces sujets. Malheureusement, à cause de ces complexités réglementaires, l'industrie du CBD en France est très très limitée, alors que dans nos voisins européens, il y a eu un boom, et encore plus aux États-Unis. Donc on est arrivé dans une situation paradoxale où en fait, en France, on est un des premiers pays consommateurs de CBD en Europe, mais la majeure partie des produits consommés en France viennent de l'étranger. Et aussi, le manque de cadre réglementaire crée un risque pour les consommateurs.
Dieu aime regarder.
il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. C'est un sadique.
Donc on espère aujourd'hui une libéralisation du marché du CBD en France, un meilleur accès à des produits de qualité et une réglementation qui permet aux sociétés françaises de participer à ce fort engouement pour cette molécule et puis pour l'utilisation innovante du cannabis sous d'autres formes également, puisque le CBD c'est une molécule intéressante, mais dans le cannabis il y a plus de 140 molécules intéressantes à explorer et c'est tout ça aussi l'intérêt de bien réglementer, c'est de pouvoir aussi autoriser les chercheurs à faire des études et à démontrer des nouveaux usages qu'on pourra nous ensuite entrepreneurs transformer en produits utile pour la vie des gens.
Oui. Vous comprenez, mon ami, vous comprenez. Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
On est passé de délinquant à héros. On aurait pu perdre aussi, et c'est vrai que les gens n'aiment pas trop les perdants. Donc, quand je me suis lancé avec ce premier produit, j'avais dans l'idée, effectivement, de faire avancer aussi le sujet d'un point de vue réglementaire, de lancer un pavé dans la mare. Après, je m'attendais pas à une procédure judiciaire aussi longue, et je recommande vraiment aux entrepreneurs de faire attention pour justement éviter ces procédures judiciaires-là. Après, j'ai jamais lâché parce que je savais aussi dans quoi je m'engageais. Le cannabis, pour moi, c'est un sujet de société qui est important. Après, il y en a beaucoup d'autres aussi. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment de travailler sur des problèmes compliqués à résoudre qui peuvent vraiment aider les gens dans leur vie au quotidien. Voilà, donc moi je me considère un petit peu comme un activiste entrepreneur et c'est vrai que cette victoire à la Cour européenne de justice, ça montre aussi que c'est possible de gagner, c'est possible de faire avancer ces sujets compliqués. C'est pas quelque chose du tout d'assuré, hein, même si on est bien préparé, même si on a une cause juste et qu'on essaye de faire les choses bien et honnêtes, on aurait pu aussi perdre et c'est vrai que on se serait retrouvé vraiment avec des années de travail qui auraient servi à rien.
Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.
D'où viennent les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals?
Ring, 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 banana phone.
6 ans après sa première garde à vue, après une première condamnation à 15 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende, après un procès en appel, un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, Antonin va enfin pouvoir prendre du repos bien mérité. Grâce à son combat devant les juges, il est établi par la justice européenne que la France n'a pas le droit d'interdire la commercialisation de CBD sur son territoire.
Depuis, Antonin Cohen a lancé une nouvelle boîte, Harmonie, qui propose des produits bien-être et cosmétiques, pour la plupart au CBD, dans une quarantaine de pays. Et pour être clair, c'est ce succès entrepreneurial qui lui a permis d'investir pour se défendre devant la justice européenne.
De l'herbe musicale magique. Soufflez dessus et si vous êtes vraiment sincère, l'herbe se mettra à chanter.
Il était une fois Valeria et Emiliano. Valeria est la maman d'Emiliano, un tout petit garçon, très beau. Oui mais voilà, chaque soir de pleine lune, et même les autres d'ailleurs, Emiliano est pris de terribles crises d'épilepsie nocturne. Et aucun docteur de leur pays, l'Argentine, ne semble trouver de solution. Un beau jour, quelqu'un conseille à Valeria de cultiver une plante magique qui pourrait soigner son enfant. Valeria se met au jardinage. Elle devient une mama cultiva, ces mamans latina qui font pousser du cannabis pour produire de l'huile de guérison. Devant les tribunaux de tout le continent sud-américain, les mama cultiva défendent leur droit de jardiner. Et les Argentines, emmenées par Valeria, ont fini par gagner la bataille. Le 11 novembre 2020, le pays a légalisé l'autoculture de cannabis à usage thérapeutique.
Merci maman, vraiment je suis content, tu vois, tu peux me faire plus plaisir.
Valeria et Emiliano vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour.
amis, y en a-t-il beaucoup parmi vous qui réussiraient à faire chanter l'herbe musicale ?
Pour comprendre le rôle de ces héros qui ont emmené le cannabis devant les juges pour faire évoluer les lois, on a voulu faire un tour d'horizon mondial et historique d'un phénomène qui n'est pas du tout anecdotique.
Oui, et pour ça, nous avons discuté avec notre camarade Aurélien Bernard, le fondateur du site d'information Newsweed et un fin connaisseur de l'histoire des réglementations internationales sur le cannabis.
Banana Cash.
Yes, we have no banana.
Sur Nick, la radio.
We have no bananas today. Bananas today.
Aurélien Bernard, bonjour.
Bonjour Christophe.
On est peu de temps après ce fameux verdict célébré par tout le monde, le verdict donc de l'affaire Canavap au niveau de la Cour européenne de justice. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette décision ?
Alors c'est déjà une décision ultra importante. Pour tous les gens qui vendent du CBD, notamment les magasins en France, c'est un vrai soulagement parce qu'ils étaient largement poursuivis pour trafic de stupéfiants et on ne pourra plus les accuser de trafic de stupéfiants parce que et la Cour de justice européenne puis ensuite la Commission européenne ont délibéré et statué que le CBD n'était pas un stupéfiant. Après je pense aussi à tous les gens que cette affaire a pris et tous les gens qui ont dû aider Sébastien et Antonin, donc les deux fondateurs de Canavape, qui ont quand même pris 5 ans, qui ont pris 15 mois de sursis en première instance. On doit encore avoir l'avis maintenant de la Cour d'appel après la décision de la Cour de justice européenne. On va voir si elle suit les recommandations de la CJUE. Et ces deux entrepreneurs qui avaient été ultra pionniers sur leur domaine ont finalement ouvert le marché du CBD pour la France, mais pour l'Europe aussi. Et ça a été une bataille importante qui a nécessité des centaines de milliers d'euros, alors qu'il aurait été plus simple de réguler dès le début.
Alors Sébastien et Antonin, avec cette affaire et ce verdict Canavape, ils rentrent un peu dans une sorte de panthéon, on va dire, de ces héros qui sont allés devant les tribunaux pour contester les lois qui criminalisent le cannabis à travers le monde. On peut même dire, je crois, aux États-Unis que le mouvement pro-légalisation est né comme ça, dans les tribunaux.
Ouais, tout à fait. Au global, le mouvement militant s'est toujours appuyé sur des poursuites en justice. Effectivement, aux États-Unis, le mouvement de légalisation du cannabis, avant même celui de légalisation du cannabis médical, a commencé par un gars qui est rentré dans une cour de justice, qui a allumé un joint et qui a dit « Poursuivez-moi, je veux légaliser, attaquez-moi et on verra ». C'était dans les années 60, je crois, donc il était très pionnier, très early adopteur de ça. Mais tout le militantisme s'est appuyé sur ça, parce que c'est, à mon sens, un droit que demandent les patients, les malades pour le cannabis médical et les consommateurs pour le cannabis récréatif, et c'est un droit que les gouvernements n'accordent pas. Comme le mariage gay, il a fallu des combats, des batailles, et tout le mouvement autour du cannabis s'est appuyé sur ça. Ouais.
Tu parlais du cas du cannabis médical. Au Canada, c'était des recours de patients devant les tribunaux qui ont permis de faire bouger les choses.
Effectivement, ça c'était plus à la fin des années 80. On a Jim Waterford qui était un patient qui était malade du VIH, du sida, et à qui on avait refusé de pouvoir consommer légalement du cannabis et du coup qui a attaqué le pays devant la Cour suprême de l'Ontario, qui lui a donné raison. À l'époque, il y avait une exemption, mais qui existe toujours dans la loi sur les stupéfiants canadiens, l'article 56, qui est utilisé pour accorder exceptionnellement le droit à des malades d'utiliser des drogues. On le voit aujourd'hui avec la psilocybine, par exemple, donc une petite substance des champignons hallucinogènes. Et on lui a accordé cette exemption, mais il y a eu une accumulation de patients qui ont réclamé le droit de pouvoir consommer et cultiver du cannabis. Et c'est ça qui a ouvert finalement et qui a contraint l'État canadien a adopté un programme de cannabis médical. C'est vraiment la Cour suprême du pays qui a demandé à ce que les patients aient de quoi se fournir en cannabis.
C'est un peu une stratégie des petits pas finalement qu'on a vu en tout cas au Canada, c'est-à-dire que procès après procès, affaire après affaire, le législateur est obligé d'infléchir petit à petit sa position.
Tout à fait, c'est ça. On voit que le Canada, c'était le début, c'était dans les années 90. 2001, c'est l'installation du programme de cannabis médical, donc il y a eu 12 ans de combat quasiment judiciaire, pour avoir un programme installé. Le programme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il date de 2016, donc c'est pareil, il y a eu 15 ans d'évolution. Donc oui, c'est des petits pas, on a 30 ans de rétrospective, par exemple, au Canada, pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Et au Canada, le système est encore incomplet, imparfait. Les gens trouvent qu'ils n'ont pas assez accès au cannabis médical, que les médecins ne sont pas assez formés. Et ils ont quand même 30 ans de recul. Nous, en France, on va avoir une expérimentation avec 3000 personnes qui va finir dans 2 ans. Donc, on peut estimer que le système de cannabis médical qui sera un jour mis en France sera aussi, lui, imparfait et qu'on va devoir grignoter, comme tu dis, petit pas par petit pas. Je pense notamment à la question de l'autoculture qui est souvent préalable à l'installation des systèmes et des programmes de cannabis médical à l'étranger. En France, c'est un débat qu'on n'a pas eu encore. C'est un sujet sur lequel il faudra aller. Ce sera peut-être un petit pas supplémentaire.
En avant ! En avant ! Oui, vous êtes sur la bonne voie et on avance à petits pas.
Si on continue un peu le tour du monde en fait, de ces héros du cannabis qui sont allés devant les tribunaux avec des exemples, des cas assez différents. En fait, on peut prendre le cas aussi de l'Amérique latine où ça a été pareil devant la justice que les choses ont pu évoluer.
Ouais, l'Amérique latine, alors y a, je pense à deux choses. Il y a d'abord le Mexique où, comme en Afrique du Sud, la Cour suprême du pays a jugé que l'interdiction du cannabis était inconstitutionnelle, donc il fallait changer la constitution pour légaliser le cannabis. C'est ce que ces deux pays sont en train de faire. Et sur toute l'Amérique du Sud, on a un mouvement qui s'appellent les Mama Cultiva, qui sont les mamans qui cultivent du cannabis pour leurs enfants et qui sont réellement montées au créneau. C'est parti du Chili, c'est allé ensuite en Argentine, on en trouve au Pérou, enfin dans tous les pays d'Amérique du Sud maintenant, et qui réclament le droit de cultiver du cannabis pour en faire de l'huile pour leurs enfants malades, notamment parce que l'accès au cannabis médical n'existe pas dans ces pays, ou alors il est trop restreint, ou alors il est trop cher. Une huile qui est faite à partir de son propre plant de cannabis ne coûte rien du tout à faire, là où les traitements coûtent entre 350 et 500 dollars par mois. Donc c'est des prix qui sont largement inabordables pour le commun des mortels.
Et alors est-ce que tu penses que dans la lignée donc, de la grande histoire américaine, canadienne, mexicaine, sud-africaine, est-ce que la légalisation en France pourrait passer aussi par les tribunaux? Ou est-ce qu'il va falloir attendre qu'un candidat à l'élection présidentielle pro-légalisation gagne et fasse passer une loi au Parlement, etc.
Sans doute là aussi que si ça venait de l'État, ce serait plus rapide et davantage souhaitable parce que l'État prendrait la main sur le sujet et se laisserait pas faire, entre guillemets, acculer devant le mur par une décision de justice. Ce qu'on voit à l'étranger, c'est que ces décisions de justice, elles prennent du temps, elles prennent de l'argent. Je pense à tous les militants en Californie qui, eux, avaient déjà un marché gris du cannabis médical et du coup ont pu collecter de l'argent pour se défendre derrière pour les tribunaux. C'était vraiment ça avec les clubs de compassion, les gens qui cultivaient et qui distribuaient. Ils ont réussi à se défendre face à ça. Ils ont eu aussi un gros contributeur qui était George Soros qui les a aidés financièrement. En France, on n'a ni ce marché gris, on va dire, du cannabis médical. À ma connaissance, on n'a pas de philanthrope et c'est peut-être regrettable, mais sur le domaine du cannabis. Donc pour financer ces poursuites éventuelles, je ne connais personne qui est capable de le faire pour l'instant. Après, ce serait sans doute très marrant d'avoir quelqu'un qui arrive à mettre le doigt dans l'engrenage et à prouver potentiellement l'inconstitutionnalité en France de l'interdiction du cannabis. C'est différentes voies d'attaque, en fait. On peut avoir et un président qui décide de le faire et des gens qui attaquent en justice. Pour l'instant, on n'a aucun des deux.
Et pour plus d'informations sur tous ces sujets, on vous recommande évidemment la lecture de Newsweed, le site d'information de référence sur l'actualité mondiale et légale du cannabis.
Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon.
Oh non, pas lui. Vous avez lu l'histoire de Brownie Mary? Comment elle vécut? Et comment elle est morte? Ça vous a plu? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Brownie Mary.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, ils sortent, les traîtres!
Non, c'est...
Oh!
Alors voilà, Brownie Mary faisait des...
Cookies.
C'est cela, oui.
De fameux cookies au cannabis.
Pourquoi?
Pour aider des malades du sida.
Où ça?
C'est gênant, n'est-ce pas?
San Francisco. Au début des 80s.
C'est l'heure des médicaments.
Plusieurs fois, Brownie Mary est arrêtée. À 60 ans, elle se voit condamnée.
D'accord, faisons comme ça.
500 heures de travaux d'intérêt généraux. Elle rejoindra le panthéon des héros.
La 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 la, il ne peut plus rien
nous arriver d'affreux maintenant.
Banana Cash.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ?
Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
Banana, 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 nanana, nanana.
Et ben voilà, Banana Cush épisode 17, c'est déjà terminé.
Christophe et Camille, comme d'habitude, sur le banc des accusés. Charlène Nouilloux à la réalisation, reconnue coupable d'humour douteux et d'autodérision. Merci également à notre stagiaire Pierre Coquet qui a entaché son casier judiciaire pour nous aider sur la préparation de cette émission.
On se retrouve juste après les fêtes, nous aurons l'honneur d'avoir comme invitée une femme qui, dans sa vie, en aura vu des bananes, des vertes et des pas mûres, la doyenne de l'agence ASK dans 10%, la mama de la famille Azan dans Family Business, une sacrée Liliane.
Tiens, moi par exemple, tu vois avec ma gueule de Bernadette, pour l'instant tu me considères comme une pauvre fille, comme un boudin. Et dans un certain sens, t'as raison, je vaux pas bien cher. Je suis le genre de fille qui prend toute sa valeur dans le noir.
D'ici là, vous savez ce que vous avez à faire, nous suivre, nous liker, nous donner de la force pour dire nick aux plateformes et aux réseaux sociaux qui n'aiment pas trop la banane. On vous embrasse et on vous dit à très vite.
Ciao. Ciao.
Les syndicats, chanvre et Marie-Jeanne, opium à chiche, Blanche-Neige, sticky, trip et joint, Hervé voyage au bout de l'acide lysergique, dit-il, la mine et la nuit.
Alors Camille, t'as pris quoi pour ta famille pour Noël ?
Oh bah de la tisane au CBD, tiens, comme tout le monde. Et toi ?
Oh bah rien, des petites friandises pour mamie, quoi. Tu veux goûter ?
Vas-y. C'est bon, c'est hyper bon. Ah, c'est tutti frutti, j'adore.
Ouais, c'est Monsieur Poulpe qui m'a refilé le plan.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Faut pas nous bourrer le crâne, nous avons des bananes. Oui, des bananes et des impôts, nous en avons plus qu'il n'en faut. Nous sommes sous un régime tellement, tellement sublime que des bananes et des discours, nous en aurons toujours.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.